2022, Michel Bonnet. C'est notre première rencontre de cette année. Donc, chers amis, auditeurs, auditrices, je vous souhaite tout ce qu'on peut souhaiter de bon et de beau pour cette année. Donc, mes meilleurs voeux. Et nous allons continuer, nous, tout doucement, tranquillement, à essayer de d'irriguer un tout petit peu notre vie quotidienne ici, en pensant un peu à cette énergie qui coule en Occitanie depuis le temps d'autrefois, de la même énergie qui a soulevé Raymond VII, qui a soulevé les hérétiques, les croisés, etc. Comme tout ce brouhaha. Voilà, donc nous continuons à découvrir Raymond VII et Cordes, et le Midi autour de Cordes, l'Occitanie autour de Cordes, et je vous propose aujourd'hui de réfléchir un peu à la dimension internationale de la vie de Raymond VII. On n'y pense pas souvent parce qu'on Toulouse, Cordes, bon c'est tout petit, bon c'est bien. Quelquefois on pense beaucoup à l'Occitanie, mais l'Occitanie devient finalement un quelque chose qui est pas replacé dans son contexte. Et je crois que c'est assez important. Aujourd'hui, on n'imagine pas on va avoir les élections municipales dans les mois qui viennent. On n'imagine pas Toulouse ou Cordes ou l'Occitanie sans penser aussi à tout cet environnement avec l'Europe, avec le monde dans lequel on est. On ne sait jamais s'il va pas y avoir une guerre qui va démarrer un jour ou l'autre. Enfin, vous voyez. Eh bien, au temps de Raymond VII, c'était la même chose. Il ne faut pas croire que la vie de Raymond VII dépendait uniquement à la fois de son sentiment ou des relations qu'il avait avec le comte de Foix ou les seigneurs de la région ou avec les évêques, etc. Non, non, il y avait sur lui en permanence, on peut dire, une pression internationale et une des qualités de mon point de vue. Vous savez que je suis un fan de Raymond VII, bien sûr, quoi, mais de mon point de vue, c'est Raymond VII a fait le poids au point de vue international. Il a suggéré cette pression internationale, pas à 100% bien sûr, mais ça vaut la peine de se rendre compte de la dimension de cet homme qui le rend encore plus moderne qu'on peut l'imaginer. Et vous voyez, Toulouse, il faut replacer le comté de Toulouse à l'intérieur de l'Occitanie, je dirais même dans un territoire beaucoup plus vaste et qui est en fait la Méditerranée. On ne pense pas assez à Toulouse au sein de cet ensemble, ce grand bassin méditerranéen. Et Toulouse, c'est une partie. Et Toulouse vit au rythme, je dirais en quelque sorte, de la Méditerranée. Toulouse est au bord, Toulouse, le comté de Toulouse. Quand je dis Toulouse, c'est sur le comté de Raymond, des Raymond de Toulouse, n'est-ce pas? Il est toujours lié avec l'Espagne, avec l'Afrique du Nord, avec la Sicile, avec les croisades au Moyen-Orient, avec la Grèce, la civilisation grecque, gréco-latine, etc. Et il est là. Il est en fait, si on y regarde bien sur une carte, le dernier grand comté, la dernière grande force politique avant les pays du Nord. Il est à la frontière, on dit habituellement l'Occitanie va à peu près jusqu'à la Loire. Oui, c'est que à partir de là, on passe sur un autre versant, le versant, je dirais, européen de la mer, des mers du Nord, de la mer Baltique, etc. Oui, et si vous allez dans un port de la mer Baltique, il y a des chances que vous mangerez pas une bouillabaisse marseillaise. Ça a pas le même goût, ça se fait pas de la même façon, et ainsi de suite. Donc, Il y a comme cela deux mondes, au temps de Raymond VII, autrefois, aujourd'hui un peu moins parce que les voyages changent les choses, mais il y a comme ça deux mondes, le monde autour de la Méditerranée, qui est vers le sud, et le monde autour des mers du Nord, qui est le monde, disons, pour Alévik, anglo-saxon et viking. Mais dans le monde de la... J'insiste sur ce lien avec entre Raymond VII ou entre le comté de Toulouse et la Méditerranée, parce que il faut absolument y coller la culture gréco-latine, bien sûr, mais aussi musulmane, arabe, si vous voulez, tout ce qui est le pourtour de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, mais aussi le pourtour de, au temps de Raymond VII, d'une partie de l'Espagne. Le Portugal, lui, il est vers l'océan, c'est plus du tout le même problème que l'Espagne. Donc, vous voyez, déjà, rien que de penser à Raymond VII et à Toulouse en tant que quelqu'un du monde méditerranéen, c'est vraiment, ça ouvre beaucoup de perspectives, c'est vraiment intéressant. Et évidemment, là-dedans, Toulouse est depuis toujours un grand comté. Avant même qu'on ait le comté de Toulouse, au sens strict du mot, rappelons-nous que Toulouse, c'était la grande capitale du monde des Visigoths. Et cette grande descente de l'Europe du Nord qui a essayé de conquérir le bassin méditerranéen à travers les Visigoths, elle a été centrée à Toulouse pendant un bon bout de temps. Et vous savez que on a retrouvé récemment, il y a quelques années, le palais des rois des Visigoths, d'Alaric, etc., à Toulouse, au bord de la Garonne. Voilà. Donc Toulouse, un centre important depuis toujours. Nous nous arrêtons une seconde.
CFM, l'esprit. Rock.
accord de 2022, Michel Bonnet. Donc, la dimension internationale de Raymond, elle tient à son lignage, d'abord à Toulouse. Vous savez que un des grands maîtres de l'Occitanie, autrefois un des grands seigneurs toulousains, c'était Raymond IV, qui a été le premier chef de la croisade, le chef de la première croisade, et qui est parti à Jérusalem, et qui là-bas a même fondé le comté de Tripoli. Donc Toulouse était déjà depuis toujours très très important pour les comtes de Toulouse. Ce qui veut dire de suite que pour Raymond VII, le lien avec la France est important. Pas uniquement uniquement parce que il y a les croisés qui sont descendus et attaqués à partir de disons de 1209 avec la croisade des Albigeois qui sont venus presque asservir, démolir le comté de Toulouse, mais les liens étaient extrêmement profonds et en fait, quand Raymond VII est né, son père Raymond VI était un vassal du comte du roi de France. On a toujours été suzerain, comme suzerain, on a toujours eu le roi de France. Ce qui veut dire que les relations avec le roi de France font partie de la vie et de la mentalité de Raymond VII. Et lorsque, en 1229, Raymond VII passera le traité de Paris avec le roi de France, en fait, Blanche de Castille qui était régente, et puis Louis IX, il ne fait que reprendre les habitudes d'autrefois. On dit c'est pas du tout une vente, en quelque sorte, une trahison, une vente de Toulouse à du comté à la France, pas du tout. C'est tout à fait normal. Et Raymond VII avait son frère avait un frère qu'il a jamais connu quand il était jeune, Baudouin, mais qui était le fils d'une première femme de Raymond VI, Constance de France, qui a été éduquée, à la cour du roi de France. Et qui est descendu pour essayer de prendre le pouvoir avec ou à la place de Raymond VII. Bon, il s'est fait, ça s'est mal passé, évidemment, parce qu'il venait en se mettant du côté des croisés et non pas du côté des Albigeois. Bon, mais voilà. En permanence, Raymond VII, il faut le voir en lien d'une façon ou d'une autre avec la France, et quand on dit la France, c'est l'île de France, le roi de France. Ça, c'est une donnée très très importante, évidemment, puisque à la fin de sa vie, Raymond VII sera obligé, n'ayant pas d'héritier, à passer le comté de Toulouse à sa fille, qui, mariée avec le frère du roi de France, vous connaissez la suite, fera passer l'Occitanie dans le cadre plus général de la France. Il y a une deuxième dimension, alors là, dont nous avons déjà beaucoup parlé dans ces émissions autour de cordes, etc., c'est avec l'Angleterre. Parce que, comme vous le savez, la maman de Raymond VII, était Jeanne d'Angleterre. La fille de la célèbre Aliénor d'Aquitaine, qui était mariée au roi d'Angleterre. Et donc, il a été très, très marqué par ce lien avec sa mère, et à travers sa mère, par ce lien avec les Plantagenets. Et tout au long de son existence, de sa vie, il essaiera d'améliorer ses liens avec l'Angleterre en permanence, et ça lui amènera de gros ennuis, parce que la France et l'Angleterre étaient constamment en guerre, donc Raymond VII était obligé de choisir, ou avait tendance à se mettre d'un côté de l'autre selon les circonstances. Une des données importantes de l'Angleterre, vous le savez à cette époque-là, c'est que c'est elle qui a lancé, c'est la cour des Plantagenets, avec Aliénor d'Aquitaine, bien sûr, notamment, qui a lancé tout le monde de la courtoisie, le monde de l'amour courtois, le monde des troubadours, qui a eu une énorme influence sur l'ensemble de l'Occitanie, mais sur le comté de Toulouse, sur la Provence notamment. Et Raymond VII a été éduqué, formé dans le système de l'amour courtois, dans les cours, dans la cour comtale, dans les cours des grands seigneurs de l'époque, la cour du roi d'Angleterre notamment. Donc cette influence culturelle de la littérature, la poésie venant d'Angleterre a été très importante dans la formation et donc dans la mentalité de Raymond VII. Il fera tout au long de sa vie des essais de coalition, enfin coalition c'est peut-être pas exactement le mot tout le temps, mais des coalitions avec le roi d'Angleterre et finalement bon, ça se passera mal puisque après en 1240 le roi de France battra complètement le roi d'Angleterre au-dessus de Poitiers et obligera Raymond VII à respecter les traités qu'il avait jusque-là. Donc vous voyez d'un côté le lien avec la France, de l'autre côté le lien avec l'Angleterre. CFM. Corde 2022, Michel Bonnet. Nous continuons à faire le tour, si on peut dire, de l'Europe, en essayant de découvrir un peu cette dimension internationale de la vie et de la mentalité de Raymond VII. On a parlé de ses liens et de l'influence de la France, bien sûr, de ses liens avec l'Angleterre, notamment parce que sa mère, Jeanne, était la fille du roi d'Angleterre et d'Aliénor d'Aquitaine, son épouse. Bref, tout cela très important pour Raymond, mais il y a un troisième pays aussi, une troisième monde, j'ai envie de dire, plutôt que pays, c'est l'Aragon, ou c'est l'Espagne, si vous voulez, pour aller vite, puisque, vous le savez, d'une part, l'Aragon était toujours en guerre avec avec les comtes de Toulouse, à cause de la Provence, parce que l'Aragon essayait de s'installer et de grignoter le plus possible le littoral méditerranéen, et donc la Provence, il essayait de la mettre de son côté. D'autre part, vous savez que le vicomte Trencavel, le vicomte de Carcassonne, avait quitté la suzeraineté du comte de Toulouse pour se mettre du côté de l'Aragon. Donc ça créait des tensions énormes. Et évidemment, ça a obligé les comtes de Toulouse tantôt à se battre avec le roi d'Aragon, tantôt à faire des accords avec lui. Et lorsque Raymond VII est né, et bon, il a un peu grandi, comme vous le savez, son père était plutôt avec de bonnes relations, cherchait à avoir de bonnes relations avec l'Aragon pour faire face à la pression de la croisade qui est en train d'arriver et de dévaster le comté de Toulouse. C'est comme ça que le père de Raymond VII, donc Raymond VI, s'est marié avec une sœur du roi d'Aragon, de Pierre II, roi d'Aragon, mais que également Raymond VII, tout jeune, tout jeune, il avait 11 ans, vous voyez, a été marié avec une autre sœur du roi d'Aragon. Donc il était très lié, et jusqu'à sa mort, il restera marié avec la Sancy d'Aragon, il a cherché à divorcer, bien sûr, puisque elle lui a donné qu'une fille, Jeanne, et lui, il avait absolument besoin d'un héritier garçon. À l'époque, c'était impensable de ne pas avoir un garçon quand on se mariait. Je parle dans le milieu aristocratique, bien sûr. Il fallait absolument avoir un héritier mâle. Et donc, ce lien avec l'Aragon aurait pu être extrêmement important si il sentit sa femme lui avait donné un héritier, un garçon pour l'héritage. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais les liens avec l'Aragon ont été très 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 solides. C'est au point que vous vous en souvenez, Pierre II, le roi d'Aragon, qui était tout auréolé de ses luttes, de ses victoires contre le pouvoir arabe de Cordoue, de l'Alhambra, etc., de l'Andalousie, lui est venu aider les Toulousains à lutter contre Simon de Montfort et contre les croisés. Vous vous en souvenez? Malheureusement, la bataille de Toulouse, enfin la bataille qui s'est passée à Muret, en fait, plus exactement, ça s'est mal passé parce qu'il y a eu des dissensions, il n'y a pas eu une mise au point stratégique tout à fait claire et nette entre le comte de Toulouse Raymond VI et le roi d'Aragon, et si bien que Simon de Montfort a battu non seulement la coalition, mais en plus le roi d'Aragon a été tué à Muret, et sous les yeux de Raymond VII. Et donc Raymond VII restera marqué tout au long de sa vie, à la fois parce que, bon, il était lié avec l'Aragon, mais aussi parce qu'il s'est rendu compte que on pouvait avoir une armée extrêmement puissante, avec des tas de seigneurs et de soldats, etc., mais que s'il n'y avait pas d'unité et une unité de commandement dans cette armée, eh bien, on risquait la catastrophe. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pas que Simon de Montfort était plus fort que l'armée de Simon de Montfort et des croisés, plus forte que celle du roi d'Aragon et des Toulousains. Non, au contraire. Seulement, Simon de Montfort était un commandant unique et il a évité la débandade, alors que pour les Toulousains et pour le roi d'Aragon, les seigneurs se sont pas entendus entre eux et donc ils ont été battus. Mais ceci dit, voyez comment le comté de Toulouse et Raymond VII en particulier a été lié là aussi avec l'Aragon et à travers l'Aragon avec l'ensemble de l'Espagne et plus loin, je dirais, le monde musulman, mais on va y revenir. Il faut ne pas oublier aussi une chose par rapport à l'Aragon et à l'Espagne, par rapport au Sud, c'est que Toulouse, à cette époque-là, disons le 12e, 13e siècle, ça continuera après aussi, mais Toulouse est un gros centre, avec la basilique Saint-Sernin, est un gros centre de pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Et les pèlerinages de Saint-Jacques de Compostelle, c'est un des grands lieux des échanges culturels, commerciaux, entre le sud et le nord des Pyrénées. Mais c'est transpyrénéen, c'est beaucoup plus que d'aller faire des prières ou d'aller faire, enfin comme on dit, un pèlerinage à un saint là-bas au bout de l'Espagne, au nord du Portugal. C'est tout un monde d'échanges entre le sud et le nord, et Toulouse est une plaque tournante. Si bien que l'influence de ces transformations à travers la frontière pyrénéenne, à travers les Pyrénées, a beaucoup influencé Toulouse et le comté de Toulouse et Raymond VII. Et puis, il faut se tourner vers une autre puissance qui... déjà à cette époque, aujourd'hui encore, était énorme, c'est l'Empire germanique, ce qu'on appellera aujourd'hui donc l'Allemagne. Vous voyez, on connaît les problèmes qu'on a de relations entre la France et l'Allemagne, entre nos chers présidents et les chanceliers allemands. Mais déjà à cette époque, c'est extrêmement important. Avant d'en parler un peu, on refait une pause.
CFM
de Cahors à Albi.
De Cahors à Albi.
L'esprit rock.
One more time. Ooh, I see.
Awards 2022, Michel Bonnet. Dans cette découverte de Raymond Seidj et de sa dimension internationale, donc j'évoquais le cas de l'Empire germanique. Il était extrêmement important. C'était la grande puissance de l'époque. Petit à petit, la France a réussi à se mettre à égalité et puis même à dominer le jeu européen, si on peut employer ce mot. Mais à l'époque, l'Empire germanique était extrêmement important. Et il était important pour Raymond Seidj parce que il était maître d'une bonne partie de la Provence. Et donc, les comtes de Saint-Gilles, les Toulousains, comtes de Saint-Gilles, qui avaient leur centre à Beaucaire, étaient constamment en contact avec la puissance germanique. On se rappelle, pour ceux qui ont eu l'occasion d'écouter cette émission, l'influence sur Raymond Seidj à travers Gervais de Tilbury, ce grand littéraire qui a écrit le Monde des Merveilles et qui était à Arles en tant que maréchal de l'empereur germanique. Donc à Arles, Beaucaire, c'est 15 à 20 kilomètres, ils se rencontraient dès tout jeune. Le petit Raymond Seidj, Raimundet, était influencé déjà, ne serait-ce que par ses relations avec Gervais de Tilbury. Mais tout au long de sa vie, il aura des relations et tantôt il sera très ami avec l'empereur d'Allemagne, tantôt il sera plutôt de notre côté. Enfin, il jouera non pas un double jeu, Raymond Seidj, justement, c'est sa dimension internationale qui est intéressante, c'est qu'il est très concret, très pragmatique, il fait un serment, mais s'il voit que ça marche pas, hop, il en fait un autre avec l'opposé, vous voyez. On peut le lui reprocher, mais après tout, bon, c'est un politique, et c'est pas nouveau sur Terre, n'est-ce pas? Bon. Mais ceci dit donc, il a eu notamment beaucoup de relations avec l'empereur germanique parce que on ne le sait pas assez, mais Rome, le roi à Rome, c'était le pape, n'est-ce pas, avait des relations assez dures avec l'empereur germanique. Ils étaient en guerre assez souvent et plusieurs fois le pape a demandé à Raymond Seidj de venir le protéger, le sauver de la puissance germanique et même de se faire un entremetteur entre Rome et l'empereur d'Allemagne pour rafistoler les relations. Et c'est comme ça que Raymond Seidj, d'ailleurs, quelquefois, il s'est fait enlever l'excommunication, puisque le pape venait lui dire, disons, tu peux pas aller voir un peu l'empereur d'Allemagne pour me faciliter la vie. Et Raymond Seidj lui dit, d'accord, mais je suis excommunié, alors il faudrait faire quelque chose. Et donc, il se faisait sauter l'excommunication. Oui. Il faut être un peu réaliste quand on regarde l'histoire. C'est pas que des grandes merveilles qui se passent. C'est des discussions entre hommes, disons, entre êtres humains. Voilà. Bref, Raymond Seidj, les relations avec l'Allemagne, avec l'Empire germanique, ont tenu une place assez importante dans la vie de Raymond Seidj. Et puis, évidemment, je ne dis pas que c'est la fin, mais on va vers la puissance numéro un à cette époque-là. C'était la papauté, c'était l'Église catholique, l'Église qui avait son centre à Rome et où le pape, l'évêque de Rome, le pape se voulait le roi non seulement de Rome et de l'Italie, ou tout au moins d'une partie de l'Italie, mais il voulait même être finalement l'empereur de l'ensemble du monde existant. Et un des gros problèmes de cette époque-là, ça a été cette volonté, on pourrait dire hégémonique, du pape, qui, à travers la pression sur les évêques et les seigneurs, à travers la pression donc de la religion, voulait organiser son pouvoir et être absolument le maître du monde. Vous voyez. Et donc Raymond VII a eu des relations assez difficiles en permanence avec l'Église. Vous vous souvenez que son premier grand contact avec l'Église, c'était au Concile de Latran, où il a été déshérité. Et où son père a été mis en exil, le comté de Toulouse a disparu. Il a été sauvé in extremis par les évêques anglais qui ont rappelé que le petit Raymond, devait récupérer la dot, les territoires qui appartenaient à sa mère, ce qui lui a permis de, je dirais en quelque sorte, de remonter à cheval pour aller se battre et se battre pour sauver les terres de sa mère. Mais donc, c'était une expérience de l'Église très négative, où il a découvert que l'Église était une énorme institution, une sorte de monstre qu'on ne pourrait jamais battre, mais contre lequel on se heurtait en permanence, et donc il fallait s'en protéger. Et toute la vie, toute sa vie, Raymond VII a eu cette idée de ne pas attaquer l'Église, mais de s'en protéger. C'est pas du tout la même chose de se battre en voulant se protéger, en résistant, plutôt qu'en attaquant. Vous voyez, il a jamais voulu battre l'Église. Vous voyez, non, mais il a voulu se protéger le comté de Toulouse et les Toulousains par rapport à la puissance de l'Église. Et donc, il a eu ça. Et puis, Rome a lancé la croisade contre Toulouse. Évidemment, ça a touché énormément Raymond VII, qui a lutté à fond pour ça, qui a eu la chance de pouvoir battre et je dirais en quelque sorte mettre à mort en quelque sorte Raymond VII. Je m'excuse, Simon de Montfort, hein, il a été battu, il est mort, et donc la croisade a été battue, c'est grâce à Raymond VII. Mais ça a été un coup dur pour l'Église. Et l'Église, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour remettre à genoux Raymond VII, en le faisant se mettre à genoux devant le roi de France. C'est l'Église qui a organisé ça. Raymond VII, en 1229, avait fait un brouillon de traité de paix avec le roi de France, avec Louis IX et sa mère, la régente Blanche de Castille. Mais l'Église est venue bouleverser cela pour obliger Raymond VII à se mettre à genoux véritablement devant elle. Et donc, ça a été très dur, comme vous le savez. Et puis, après 1229, il n'y avait plus la croisade, mais à la place, il y a eu l'Inquisition, qui a toujours été une pression de l'Église pour s'imposer sur l'ensemble des pays d'Europe, et notamment de l'Occitanie, enfin du comté de Toulouse. Alors, vous voyez, il s'est retrouvé face à cette puissance de l'Église qui était moitié religieuse et moitié politique. Même peut-être certains diront plus souvent politique que religieuse. Et puis, il y a un dernier point qu'il ne faudrait pas oublier du tout, c'est la relation, dans ce monde international, la place du monde arabe, la place du monde musulman, c'est-à-dire tout le sud de la Méditerranée, qui faisait une pression très forte, d'un côté, parce que le monde musulman essayait d'être en expansion sur l'ensemble de la côte nord-africaine, mais qui était venu entrer sur l'Espagne et qui était remonté jusqu'à, on le sait, jusqu'à la célèbre bataille de Poitiers, où ils ont été petit à petit repoussés. Mais la pression du monde musulman était très forte de ce côté-là. Il y avait également une pression du monde musulman à travers la Sicile. Et là, c'était directement en contact, je dirais, avec Raymond VII, à travers l'influence sur Jeanne d'Angleterre, qui était la reine de Sicile. On n'y pense pas assez, mais toute la culture que Jeanne a reçue en Sicile, merveilleuse, etc., elle provenait en partie du monde musulman. Et puis, il y a eu la pression à travers l'Orient et les croisades. C'est une sorte d'appel, et Raymond VII, toute sa vie, a été face à l'obligation de partir en croisade. Il a réussi à ne pas y aller, et il a trouvé 36 raisons, 36 alliances, etc., etc. Mais c'était une pression permanente pour aller vers ce monde musulman. Sans oublier que son ancêtre Raymond IV était le comte de Tripoli. Et sans oublier aussi que les franciscains, François d'Assise et les franciscains avec qui Raymond VII était très lié, on en parlera un jour, étaient partis aussi à la croisade, mais pas pour l'attaquer, pour gérer cela d'une façon non violente. Donc, vous voyez, ce petit panorama qui nous a permis de, je pense, d'évoquer quand même une dimension un peu oubliée souvent de Raymond VII, qui, en tant que comte de Toulouse et au-delà du comté de Toulouse, a eu sa vie constamment à une dimension internationale. Je vous remercie de votre écoute. C'était Corde 2022, Michel Bonnet.
Schon das Pferd, lass fahren, zehn Schuss zum Böhm. Lass fahren, zehn Schuss zum Böhm. What's going on, wonder how my guitar. But don't my clothes at the door, that's what I found. She has sweat, sweat, sin in front of my head. And finally slams the door like some new hell. Can you won't be right? And come the money comes a lemon, but just for a beer of the rabbit's land. So it just come to me, I guess I look ashamed. And she said, sorry man, we don't have any beer, but we got champagne. Back on road, call that thing, only way I know. Get my own, my back on road. Better now.
test in my mouth. My first question is on the hell in this house. How many people were thrown around? Only shit, only shit, only shit. Did I buy?